Vous écoutez On lit pour vous. Cinq clés nutritives pour booster son énergie. Un texte de Julie Desgroseillers, nutritionniste, paru le 22 mai 2026 dans Virage. Marcher en forêt, faire une balade à vélo, jouer au pickleball ou participer à un cours de yoga, pour profiter pleinement de ces activités, l'énergie doit être au rendez-vous. Et bonne nouvelle, ce que nous mettons dans notre assiette peut grandement influencer notre vitalité au quotidien. Avec l'âge, il est normal de ressentir un peu plus de fatigue. Le métabolisme change et la masse musculaire tend à diminuer graduellement. Mais une alimentation équilibrée peut aider à soutenir l'énergie, à maintenir la force musculaire et à favoriser une meilleure endurance pour continuer à bouger avec entrain. Manger suffisamment. Pour avoir de l'énergie, il faut manger ni trop ni trop peu. Être à l'écoute de nos signaux de faim et de satiété représente la meilleure stratégie pour fournir à notre corps un bon apport énergétique. Vous avez faim entre les repas? Alors, il ne faut pas hésiter à collationner. Miser sur les bons glucides. Les glucides sont la principale source d'énergie de l'organisme. Toutefois, tous les glucides ne se valent pas. Les aliments peu transformés et riches en fibres procurent une dose d'énergie plus stable. Par exemple, un bol de gruau au déjeuner, une salade de pois chiches au repas du midi, un fruit en collation, un accompagnement de quinoa et une portion généreuse de légumes au souper peuvent contribuer au maintien d'un bon niveau d'énergie tout au long de la journée. Leur digestion plus lente permet une libération progressive, ce qui est idéal avant une marche ou une sortie à vélo. Des protéines pour garder la force. Les protéines jouent un rôle clé pour préserver la masse musculaire, ce qui devient particulièrement important avec l'âge. Et comme les protéines favorisent la satiété et aident à stabiliser la glycémie, elles permettent de maintenir un niveau d'énergie plus constant au fil de la journée. Il importe d'en consommer à chaque repas, notamment au déjeuner, un repas souvent négligé. Les œufs, le yogourt grec, le lait ou la boisson de soja, le fromage cottage, les fromages à pâte ferme, par exemple le cheddar, et les beurres de noix ou de graines représentent une bonne source de protéines matinales. Le pain et le lait enrichis de protéines peuvent aussi s'avérer pratiques, surtout pour les personnes qui ont moins d'appétit. Les bons gras, des alliés pour l'énergie. Contrairement aux idées reçues, certains gras sont bénéfiques pour la santé et peuvent contribuer à maintenir l'énergie. Les gras insaturés, notamment présents dans les huiles, l'avocat, les noix et les graines, favorisent la santé du cœur et du cerveau. En petite quantité, ils apportent une énergie durable et peuvent compléter parfaitement un repas ou une collation. Combattre la fatigue avec l'équilibre. Certains nutriments aident l'organisme à lutter spécifiquement contre la fatigue, comme le fer, les vitamines du groupe B et le magnésium. Ainsi, une alimentation variée et équilibrée, basée sur le Guide alimentaire canadien, demeure le moyen par excellence de soutenir son énergie au quotidien et surtout de profiter des activités du quotidien avec vitalité. C'était 5 clés nutritives pour booster son énergie. Un texte de Julie Desgroseillers, nutritionniste, paru le 22 mai 2026 dans Virage. Thank you.
choc d'ici et d'ailleurs. Un texte de Marc Sauny Rico, paru le 3 juin 2026 dans la presse. Notre collaborateur Marc Sauny Rico poursuit son récit d'immigration au Québec. Il s'attarde aujourd'hui aux différents chocs qui marquent le quotidien des nouveaux Québécois. Choc culturel. Je n'aime pas trop cette expression. Je la trouve un peu brusque, sèche. Je lui préfère l'expression « lune de miel », sorte de phase d'euphorie quand le nouvel arrivant est en amour avec son pays d'accueil. J'aurais pu parler personnellement de « surprise urbaine » ou de « choc de repère », histoire d'apaiser l'expression, lui donner un peu de douceur. Il y a quelques mois, durant une réunion à Montréal avec des immigrants de diverses origines, un Africain, un Français, un Mexicain et moi, l'Haïtien, quelqu'un a lancé à brûle-pourpoint la fameuse question « C'est quoi votre choc culturel ?» Le Mexicain a répondu sur le champ « Les chiens. C'est les chiens mon choc culturel. » J'ai souri malgré moi, abasourdi par cette réponse inattendue. Je réfléchissais tout bas. Comment ça, les chiens au Québec sont donc différents de ceux de son pays? Les chiens errants? Je n'en ai pas vu quand je suis arrivée à Montréal, s'exclame-t-il. Ici, les chiens sont toujours accompagnés par leur maître. Dans le village où il a grandi au Mexique, il y a des meutes de chiens sans domicile fixe. Son choc m'a fait penser à un chien errant du quartier de mon enfance, aux Gonaïves. Il n'avait pas de maître, mais des compagnons. Mon petit frère et moi l'appelions Loulou. Juliane, la fille de notre voisine, le nommait Zo. Et à la maison d'en face, Payola, en créole haïtien, ils sont là. Chaque famille lui donnait un nom différent, drôle, bizarre, affectueux. Loulou répondait présent au rendez-vous, mariage, communion, baptême et même dans les veillées funèbres, là où les adultes arrosaient la nuit de tafia et chantaient des chants vaudous. Personne n'a jamais revendiqué sa possession. Conciliant, doux, il était aimé surtout pour sa personnalité. Parfois, il nous accompagnait de la rue Parc-Vincent jusqu'à la rue Vernette pour nous déposer devant l'École nationale Saint-Valéry. Il arrivait qu'en sortant de l'école, on le croise devant la barrière, nous attendant pour faire le chemin. Grave! Il est mort noyé avec des centaines d'autres êtres vivants lors de l'ouragan Anna qui a ravagé ma ville en septembre 2008. Ce fut un grand drame, une tempête invisible s'est levée en nous. Loulou nous avait permis de dialoguer, de nous parler, de rire ensemble quand il le faut. Bref, il était ce qui nous unissait un peu. Au revoir et merci Loulou. L'Africain était taciturne. Il levait ses sourcils à chaque instant pour jauger ce qui se passait autour. « Je n'ai pas de choc culturel », a-t-il dit. « Comment ça, tu n'as pas de choc culturel ?»« Les gratte-ciels au centre-ville, je ne m'attendais pas à tous ces bâtiments qui, quand on les regarde, semblent vouloir toucher le ciel », explique l'Africain. « Et moi ?» Après la confession de l'Africain, dans la lumière glauque de la salle, tous les yeux étaient braqués sur moi. Je voulais tricher, dire « parlons d'autre chose ». J'ai repris mon souffle et esquissé un sourire pour dissimuler ma terrible timidité. J'ai attaqué. J'ai traversé tant de chocs d'amour et de surprises. Le « bonjour » au Québec, par exemple, est plus subtil, plus discret. On ne monte pas dans le métro ou le bus en se sentant obligé de saluer chaque voisin. Parfois, c'est avec un léger mouvement de tête, un petit sourire au coin des lèvres, une salutation gestuelle. Au pays d'origine, en revanche, monter dans un bus ou une camionnette implique de dire bonjour haut et fort. Si tu ne le fais pas, les passagers te lancent des œillades. Et si par malheur, tu ne réponds pas à un bonjour, je ne vends pas mon bonjour, c'est un détail, un petit rien, mais c'est ça, changer de société. Je connais la saveur du bonjour québécois et celle d'Haïti. Deux manières d'entrer en relation avec l'autre. C'est une richesse. Le nouvel arrivant qui scrute la société avec un œil d'orfèvre ouvrira plus de portes que celui qui reste dans sa bulle, indifférent. Il faut épier comment si, comment ça. Je fais de ma vie une fenêtre grande ouverte à chaque gazouillement de ce nouveau pays. L'autre choc, ce sont les restaurants. Nombreux, à chaque coin de rue. Je pensais que tout Montréal mangeait dehors. Que Jules Faulkner Leroux ne cuisine pas chez lui. Il y a un restaurant japonais à deux pâtés de mon appartement au centre-ville. Chaque fin de semaine, les gens font la file à l'entrée, debout, attendant patiemment pour s'asseoir et manger. La première fois que j'ai vu ça, j'ai été sidérée. Je paye avec mon argent et en plus, je dois attendre une bonne demi-heure debout, voire plus. Je trouvais ça un peu surréaliste. J'aime trop manger pour accepter une chose pareille. J'aime manger en famille, en groupe. Je ressens une joie incroyable à cela. On mange, on parle, on rit. Le bruit des assiettes, le cliquetis des cuillères, le goût de la nourriture qui réchauffe notre palais, tout cela prolonge un peu notre vie de quelques aurores. Mon choc d'amour, c'était quand il neigeait fort dehors et que les arbres devenaient tout blancs. On dirait qu'ils avaient fleuri de petits morceaux de nuages. Je trouvais cela sublime, réjouissant à vivre. Par la grande fenêtre de ma chambre, je pouvais passer des heures à laisser mon regard et mon âme se perdre dans cette splendeur. C'était « Choc d'ici et d'ailleurs », un texte de Marc Sony Rico, paru le 3 juin 2026 dans la presse.
Non, on ne peut pas vraiment attraper froid, mais il faut rester vigilant. Un texte de Morgane Petit, paru le 5 mai 2026 dans Science et Vie. Les expressions populaires comme « attraper froid » ou « coup de froid » sont souvent utilisées lorsque les températures chutent. Mais ces termes ont-ils une base scientifique? Bien que le froid ne soit pas directement responsable des maladies, il peut affaiblir notre organisme, augmentant ainsi les risques d'infection durant l'hiver. Coup de froid. Qu'entend-on par là? Coup de froid. Attraper froid. Deux expressions qu'on entend souvent lorsque les températures baissent et que nous entrons dans l'automne et l'hiver. Souvent, on les utilise pour indiquer les maladies d'hiver, rhume, gastro et autres grippes. Mais s'agit-il seulement d'expressions? Où peut-on réellement attraper froid et donc tomber malade à cause du froid? Eh bien, non. Médicalement parlant, ces expressions n'ont pas de sens et le froid ne peut pas nous faire directement tomber malade. Cependant, il est vrai que le froid peut réellement impacter notre corps et notre organisme. Quand le froid affaiblit notre organisme. On ne tombe donc pas malade avec un coup de froid, car finalement, pour être malade, il faut un agent infectieux, un virus, une bactérie ou même un champignon. Le froid seul ne peut donc pas nous infecter. Par contre, il peut nous affaiblir. Et c'est une expérience assez étrange et discutable éthiquement qui a commencé à mettre la puce à l'oreille des chercheurs. Ainsi, en 1878, Louis Pasteur a forcé des poules à vivre dans un bain d'eau glacée. Cela lui a permis de se rendre compte qu'elles s'infectaient et mouraient d'une maladie infectieuse, le charbon, à laquelle elles sont normalement naturellement résistantes. Pour autant, il aura fallu attendre longtemps pour avoir des preuves que le froid pouvait affecter le système immunitaire. 150 ans après, des études ont pointé du doigt les voies respiratoires et plus particulièrement notre muqueuse nasale. Notre nez est en contact direct avec l'extérieur. C'est donc une première barrière contre les agents pathogènes. Or, il s'avérerait que le froid pourrait affaiblir cette barrière. Un coup de froid affecterait-il finalement notre nez? Lorsque des agents pathogènes sont détectés par les muqueuses nasales, une réponse immunitaire se déclenche. Des vésicules extracellulaires sont alors libérées, qui contiennent de nombreuses substances qui vont perturber et gêner le virus ou la bactérie. Or, les scientifiques ont remarqué que le froid diminuait de près de 42 % la quantité de vésicules produites. L'agent pathogène rencontrera donc une barrière beaucoup plus poreuse si notre nez subit un coup de froid. Le froid peut être dangereux. Le coup de froid ne nous fait pas tomber malade directement, mais il nous impacte quand même. De plus, le froid peut vraiment devenir dangereux. Les fortes chaleurs sont très meurtrières, mais le froid n'est pas en reste. Les scientifiques constatent des variations saisonnières avec un pic hivernal observé dans plusieurs pathologies comme les accidents vasculaires cérébraux ou les maladies respiratoires. Ils s'aperçoivent que la mortalité augmente au fur et à mesure que la température baisse. En temps normal, l'être humain se protège du froid grâce à des mécanismes physiologiques thermorégulateurs. Ces derniers comprennent des acteurs des systèmes nerveux, endocriniens, cardiaques et respiratoires. Or, si ces mécanismes thermorégulateurs sont déficients ou si le froid est trop important, des pathologies peuvent survenir. La vasoconstriction, compression des vaisseaux sanguins, risque de conduire à des ruptures, favorisant des thromboses artérielles. Ces dernières, associées à une augmentation du besoin en oxygène du cœur, aggravent les risques d'infarctus. Au niveau du cerveau, il peut y avoir des accidents vasculaires cérébraux. D'autres pathologies sont associées au froid, comme l'asthme ou l'hypothermie. Cette dernière correspond à un refroidissement involontaire de la température interne du corps en dessous de 35 degrés Celsius. Elle n'est pas toujours facile à détecter, mais si elle est grave et non prise à temps, elle peut conduire à la mort de la personne. Pas de coup de froid, mais on est quand même plus souvent malade en hiver. D'accord, on n'attrape pas froid, et le coup de froid ne nous rend pas malade directement. Malgré tout, on voit bien qu'on est plus souvent malade quand les températures baissent. À quoi est-ce dû? C'est un fait. Il y a plus d'infections respiratoires en hiver qu'en été. Finalement, même si ce n'est pas forcément directement le froid, c'est quand même lié. En effet, lorsque les températures baissent, nous avons tendance à rester plus souvent enfermés en intérieur. Et nous ne restons pas seuls. Nous sommes plusieurs dans un espace clos. Il y a donc plus de risques de contagion. D'autres hypothèses postulent qu'avec le froid, les agents pathogènes, et notamment les virus, restent plus longtemps présents dans l'environnement. Alors, comment se protéger et éviter les coups de froid? Adoptons les fameux gestes barrières. On se lave les mains après avoir touché des portes ou avoir été aux toilettes. On porte un masque si on ressent des symptômes ou si on est potentiellement en présence de personnes infectées. Il faut également éviter de porter les doigts à son visage. C'était « Non, on ne peut pas vraiment attraper froid, mais il faut rester vigilant. » Un texte de Morgane Petit, paru le 5 mai 2026 dans Science et Vie.
Un scientifique en chef fringant. Un texte de Charles Lecavalier paru le 27 mai 2026 dans la presse. Bassiste des Cowboys fringants et professeur d'économie écologique, Jérôme Duprat veut inspirer la jeunesse et se tourner vers les métiers du savoir en devenant le deuxième scientifique en chef du Québec. Artiste engagé, il veut maintenant conseiller les élus pour qu'ils prennent de meilleures décisions. Mon parcours scientifique n'est pas connu du grand public. C'est une façon de susciter la conversation, de parler de science, de parler de la diversité des parcours. Il n'y a pas un seul chemin pour faire une carrière en recherche, a expliqué le scientifique et vulgarisateur bien connu en marge de l'annonce de sa nomination. Je pense notamment aux étudiants athlètes, à tous ceux qui nourrissent d'autres passions, qui veulent revenir vers la science plus tard dans leur vie. Tout ça est absolument possible, dit Jérôme Duprat. En le choisissant, M. Duprat, professeur à l'Université du Québec en Outaouais, estime que Québec vient illustrer aussi qu'on peut conjuguer des passions, des carrières et se réaliser par la science. Artiste engagé, il a pris des positions dans le passé sur une foule de sujets à titre individuel, d'artiste, de scientifique. Il ne renie pas aujourd'hui ses valeurs et ses principes. Mais la fonction change. C'est une fonction qui est maintenant neutre, qui est au service du gouvernement et c'est un rôle d'amener les meilleures connaissances pour servir les prises de décision. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et grand amateur des cow-boys fringants, Bernard Drinville, recevra ses conseils et avis scientifiques. Spécialiste reconnu en économie écologique, impliqué dans une chaire de recherche UNESCO, le titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université de Montréal et d'un post-doctorat en biologie de l'Université McGill a un parcours scientifique absolument remarquable, a dit M. Drinville. Un comité de sélection dont faisait partie le spécialiste international de l'intelligence artificielle, Yoshua Bengio, a recommandé sa nomination. Mais, en plus de son CV bien garni, le gouvernement du Québec mise également sur un communicateur et un vulgarisateur qui saura susciter des vocations scientifiques chez les jeunes, s'est félicité M. Drinville. La capacité de vulgariser la science, dit le ministre Drinville, de parler aux jeunes, de la rendre accessible aux enfants dans les écoles, aux adolescents, jeunes adultes dans les cégeps et les universités, oui, ça a compté dans ma décision de le recommander au Conseil des ministres, parce que je pense que Jérôme peut avoir un impact très positif auprès de la jeunesse pour valoriser la science et susciter des vocations scientifiques. Comme scientifique en chef, M. Duprat se voit confier trois fonctions. Il devient président-directeur général du Fonds de recherche du Québec, un fonds de plusieurs centaines de millions de dollars. Il sera un acteur de premier plan de la diplomatie scientifique du Québec. Enfin, il conseillera les membres du gouvernement en matière de développement de la recherche et de la science. Dans ce rôle, il aura à donner des avis au gouvernement qui pourra l'écouter ou pas. Comme ancien membre du comité consultatif sur les changements climatiques, il peut en témoigner. Les scientifiques avaient demandé à Bernard Drinville de ne pas reculer sur la cible climatique du Québec, ce qui n'avait pas empêché le ministre, alors à l'environnement, de repousser l'atteinte des cibles à 2035. Les décisions reviennent aux ministres, reviennent aux décideurs. Alors, le rôle, c'est de pouvoir offrir la meilleure science, sachant qu'ensuite, il y a des arbitrages à faire, des arbitrages qui appartiennent aux politiques, a dit M. Duprat. Mais que dirait-il au jeune Jérôme Duprat qui a joué des chansons comme « Plus rien » sur la fin du monde en raison de l'inaction des décideurs? Pour l'amour du Québec, le dénominateur commun, a-t-il répondu, c'est l'amour du Québec. On peut le critiquer, on peut l'aimer. On a absolument besoin des artistes. On a besoin d'objecteurs de conscience. On a besoin de ce très large spectre des parties prenantes de la société pour être capable d'avancer collectivement. On a besoin de la science, on a besoin des fonds de recherche du Québec, du bureau du scientifique en chef. On a besoin d'une collaboration avec le politique, a-t-il expliqué. La députée solidaire Alejandra Zaga Mendes est enchantée de cette nomination. Elle peut témoigner de la qualité de l'homme. Elle le connaît bien puisque c'est lui qui a dirigé sa thèse de doctorat. Je peux donc dire avec confiance que c'est quelqu'un de brillant, de rigoureux et de profondément humain. C'est un scientifique qui n'a jamais eu peur de sortir des murs de l'université pour parler au vrai monde, a-t-elle indiqué. Dans une période où trouver des solutions à la crise climatique exige du courage, de la clarté et une science bien ancrée dans le réel, sa nomination est une excellente nouvelle pour le Québec, a-t-elle ajouté. Monsieur Duprat succède à Rémi Quirion, un bâtisseur qui est en poste depuis 2011, moment où le poste de scientifique en chef a été créé. C'était un scientifique en chef fringant. Un texte de Charles Lecavalier paru le 27 mai 2026 dans la presse.